Aspetta, avant d'attaquer au droit des animaux en Colombie, je vais vous présenter un extrait d'un documentaire qui s'appelle Falsos Positivos, ou Positif, qui décrit une violence qui n'a pas vraiment un rapport direct avec les animaux non humains.
Comment s'appelle le documentaire?
Falsos Positivos. Faux positif.
Faux.
Faux positif. C'est un extrait, on ne va pas présenter tout parce qu'on a plein de choses à présenter aujourd'hui. C'est un extrait et après un petit court métrage qui s'appelle Ludique Macabre, qui s'est fait. C'est très intéressant parce que c'est une fiction qui est faite à partir des noms des jeux en Colombie. Mais qui décrit une violence assez importante pour les enfants colombiens. Avant de m'attaquer à la réalité colombienne, parce que si je ne prends pas le décor de la Colombie, ça va être très difficile et compliqué pour vous de me comprendre. Donc on va attaquer un extrait, ce n'est pas le film, c'est un extrait pour comprendre de qui il s'agit. À grosso modo, il s'agit de l'assassinat massif de au moins 6 000 personnes depuis 4 ou 5 ans, où les membres de la police, de l'armée, prennent des handicapés ou des personnes sans emploi, avec attirés sous la promesse d'un boulot, sont amenés dans un autre endroit et sont assassinés. Et le gouvernement le montre comme si c'était des criminels ou des guerrilleros tués en combat. Enfin, c'est une mise en scène criminelle. Et ça fait partie d'un des décors, parce que la réalité colombienne est très très compliquée, très complexe. C'est pour cela que, avant d'aborder le sujet des animaux non humains, je vous présente un petit cadre sur la violence en Colombie qui peut atteindre des niveaux assez dramatique. La toute dernière chose, c'est que il est très fortement probable qu'il y a des images que je vais montrer ce matin et cet après-midi qui sont assez fortes. Donc, je vous conseille aux personnes qui sont très sensibles de ne pas rester quand on présente le film ou quand on passe les images. Bah, oui. Je vous préviens, mais là ce matin ça passe parce que c'est regardé du point de vue fiction, même si tous les faits sont réels. Et le documentaire, il n'y a pas d'image dans ce que je vais montrer qui verra. Par contre, l'après-midi, oui. Et ça m'est arrivé de montrer mon film une fois dans un groupe de personnes qui ont été choquées. Donc. Je vous préviens d'avance. Allez.
Nous ferons tous des cauchemars ensemble cette nuit.
J'espère pas. En tout cas, mon but, c'est pas de faire un cauchemar. Mon but, c'est de montrer une réalité et montrer une complexité d'un pays qu'on a du mal à cerner. Même pour les Colombiens.
Oui, d'ailleurs.
Pour ceux qui ont connu la Colombie comme on dit bien, populaire. Donc on va faire un extrait de faux positif, falsos positivos. Ça c'est seulement l'extrait, c'est pour un cadre, pour ce type de violence-là. On va basculer à un autre type de violence, mais l'avantage de le deuxième qu'on va regarder, c'est un court-métrage de Carlos Mogollón, mais qu'il a eu l'intelligence de les montrer d'une façon soft, on va dire, mais que malheureusement la réalité lui-même est terrible. Bon, cette petite présentation, je l'appelle les droits des animaux en Colombie. Tout d'abord, j'ai le droit de vous prévenir et de m'excuser, car vous allez être confronté de ma part à un accent très coriace. Est difficile à comprendre malgré mes efforts. Parler des droits des animaux en Colombie pourrait sembler ne pas avoir de sens. Au vu de l'extrême violence qui attend des chiffres records. Dans ces territoires d'Amérique du Sud, beaucoup d'enfants meurent à cause de l'indifférence de l'État. On ne compte plus le nombre d'assassinats par an. Et une bonne partie de la population vit dans des conditions très précaires. Malheureusement, chaque année, la Colombie se trouve dans les podiums des pays avec les plus de violations des droits de l'homme. Selon le classement de la Human Rights Watch, de la Fédération internationale des droits de l'homme et d'Amnesty International. Le pays tient la première place au monde pour les assassinats des syndicalistes. Et par le passé, a eu lieu l'extermination politique la plus importante des 30 dernières années dans le monde, avec l'assassinat et l'anéantissement de la UP. La UP, c'est l'Union Patriotique, c'était un groupe politique souvent inspiré de la guérilla de la FARC, mais il n'avait pas uniquement de gens qui avaient décidé de la guérilla. Pour vous donner un exemple, en 1987, la Union Patriotique, qu'on appelle la UP, a pris 30% des mairies en Colombie. C'est-à-dire que c'est plus ou moins les PC, les Verts, les petits groupes, tous ensemble, que, pour donner une idée, et on avait presque 30% des maires du pays, 30% des maires du pays qui ont été assassinés, des élus assassinés, des sénateurs assassinés, des militants qui n'étaient pas guerrilleros, hein, tout simplement qui étaient avec une tendance de gauche progressiste, si on peut le dire de cette façon-là, ont été assassinés. Au bout de 5 ans, on a supprimé autour de 5000 militants entre élus et maires des villes. Pour vous donner un exemple. La Colombie est le second pays au monde pour le nombre de personnes déplacées de force. Nous comptons près de 3,4 millions de personnes officiellement enregistrées comme déplacées à l'intérieur du pays. Le pays en quelques pourcentages. 31% de la population dans l'indigence. 64% en dessous du seuil de pauvreté. 80% de la population rurale en dessous du seuil de pauvreté. 40% sans emploi. 50% du produit interne brut pour payer la dette extérieure. 40% des terres cultivables se trouvent aux mains des paramilitaires. Par des raisons de temps, c'est pas l'endroit. Je vais laisser de côté le grand nombre d'Amérindiens massacrés par les groupes d'extrême droite, les indigènes qui ont été éliminés par les groupes de sécurité. Ça, c'est les EDF, les personnes sans domicile fixe qui étaient dans les rues et que de temps en temps, la police et les forces de sécurité sortaient pour nettoyer la rue, quoi. Je ne parlais même plus du conflit avec les guérillas, non plus de la guerre de la cocaïne, et les divers problèmes sociaux et les manques de sécurité sociale des personnes pauvres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques renseignements généraux pour mieux comprendre la biodiversité de Colombie. Alors, on est 1 140 748 km² de surface. C'est le double de la France. Justement, pour vous donner une idée. Et 70% de cette surface est vierge, entre guillemets. Premier pays au monde producteur d'esmeralda, premier pays au monde en nombre d'espèces d'oiseaux et d'amphibiens. D'émeraude, la pierre verte. Premier pays au monde de espèces d'oiseaux et d'amphibiens. Et même on vient de faire une découverte assez importante de la côte pacifique. On a retrouvé autour de 1400 espèces qui n'avaient jamais été censées. Deuxième pays au monde en matière de biodiversité, après le Brésil. Deuxième pays producteur de café et de fleurs, riche en pétrole, charbon, or, et on en produit interne brut de 401 milliards de dollars. Ça fait un cinquième de la France, de produit interne brut. Mais remarquons que la Colombie possède le plus grand nombre d'espèces par unité de surface sur la planète. C'est-à-dire au kilomètre carré. La faune colombienne est très diversifiée du fait de la variété de ses milieux géographiques, côte pacifique, mer des Caraïbes, cordillère des Andes, en Colombie, se divise en trois. La forêt amazonienne et la vallée de l'Orénoque. Et c'est aussi le fait de l'interconnexion avec l'Amérique du Nord. Donc il y a plein d'animaux, surtout des baleines, qui passent en migration vers le nord. En plus, il existe sur le territoire national 600 animaux en voie de disparition. Malgré la richesse de sa réserve faunique, les droits des animaux en Colombie sont très loin d'être garantis. Et quand les personnes ou les associations s'attaquent à leur défense, cette tâche devient titanesque par la complexité de la réalité colombienne, que je vous ai parlé avant, et l'indifférence et les sarcasmes des autres. Je citerai certaines phrases qui reviennent souvent. Et qui défend les chiots humains? Chiots humains. Los cachorros humanos. C'est une réponse qui vient souvent. Pourquoi on ne défend pas les enfants? C'est pour cela aussi que je vous présentais le film par rapport à ça. Il y a d'autres luttes plus importantes pour lesquelles se battre. Vous n'avez pas autre chose à faire? Occupez-vous des enfants qui meurent. C'est là où on se rend compte que les développement n'est plus une question économique, mais une question d'état d'esprit. Il est bien connu par tous et par toutes que le fait de ne pas accomplir les plans exercices d'un droit ne proscrit pas la réalisation d'un autre droit différent. Nonobstant ce principe invétéré du droit latin, à chaque fois que les associations essayent de faire valoir leur cause en faveur des animaux, la réponse des autorités, des médias et des gens en général en Colombie est de mépriser cette requête pour estimer qu'il existe d'autres priorités dans le pays. En fait, il est bien connu que le fait de ne pas accomplir l'exercice d'un droit ne proscrit pas la réalisation d'un autre. C'est un principe de droit. C'est-à-dire, si je suis à la fac, à 8 heures, j'ai un cours de mathématiques, et à 10 heures, un cours de physique. Si le prof de 8 ans n'est pas venu, ça n'empêche pas d'avoir la classe de 10 ans. C'est deux droits complètement différents. C'est un principe de droit. Il y a un droit pour les animaux, il y a un droit pour les enfants. Si on n'accomplit pas les droits des enfants, Ce n'est pas l'excuse juridiquement parlant pour ne pas accomplir les droits des animaux. C'est deux droits complètement séparés. Donc l'excuse de dire « mais il y a d'autres priorités », ce n'est pas recevable. Juridiquement, ce n'est pas recevable. Ce mépris aux droits des animaux est inacceptable du point de vue éthique et surtout juridique. C'est également ce qui arrive avec les fonctionnaires publics et les membres de la police, qui ne s'intéressent pas aux lois sur la faune, contrevenant ainsi un des piliers fondamentaux du système juridique de la République, juris nemine excusat. L'ignorance de la loi n'excuse personne. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la loi, donc ils ne l'appliquent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ben non, c'est faux. Si tu ne sais pas que tu es une personne, c'est un crime, ben ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas être amené en justice. Ce n'est pas une excuse. Il y a plein de gens qui disent, je ne connais pas la loi des animaux, mais on s'en fout. Le principe des lois dit, il faut respecter les droits des animaux, il faut les faire. Il y a des lois de la République, il faut les faire, il faut les respecter. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé un jour voir la rédactrice en chef du journal de chez moi pour parler des animaux maltraités. Et la dame qui était très intelligente et qui avait en bas plus de 10, 30 ans d'expérience dans le journalisme, m'a dit à propos de cette dénonciation qu'elle ne voyait pas comment le journal pouvait donner une place à nos revendications alors qu'il existait au même moment des gens qui mouraient aux portes des hôpitaux ou des personnes qui n'avaient rien à manger dans les bidonvilles. Je lui ai répondu avec une phrase de George Tondig Angel. On me demande parfois pourquoi dépensez-vous autant de votre temps et d'argent à parler de la bonté envers les animaux quand il y a tant de cruautés faites aux hommes. Je réponds, je travaille à ces racines. Mais la vérité, c'est qu'on a beau citer des phrases de George Tondig Angel, du Mahatma Gandhi, d'Albert Schweitzer, la réalité reste hélas plus forte. Elle ne change pas et les regards des autres non plus. En tant qu'avocat, je peux vous dire que le statut légal de l'animal en Colombie est identique à celui en France. Car notre législation est un copier-coller du Code civil de Napoléon de 1804 et le Code français, bien sûr, est lui-même fortement inspiré du droit romain, où les animaux sont définis comme des choses-objets. Selon le Code civil colombien, donc, les animaux sont, comme dans l'Hexagone, sauvages et domestiques. Les animaux sauvages sont ceux, la définition du Code civil, sont ceux qui n'appartiennent à personne, vivent dans la nature et sont capables de survivre avec les propres moyens. Les animaux domestiques les deviennent par la domestication, la naissance ou l'acquisition. Ils sont un bien meuble sur lequel les propriétaires exercent un droit de propriété. Il y a une variante juridique, c'est les animaux qui font partie d'un immeuble, comme les animaux de ferme. Quand tu les vends comme partie de la ferme, mais ça c'est une figure un peu à part. La considération des animaux sauvages est basée sur la gestion de la biodiversité et du stock des régions. Donc, ça rejoint un petit peu la théorie conservationniste. La considération des animaux domestiques est centrée sur le patrimoine des propriétaires et, depuis quelques décennies, s'appuie sur la théorie du bien-être animal lui-même. Faune sauvage. La base de la législation colombienne est un ensemble d'arrêtés gouvernementaux qui donnent une liste en voie de disparition qui interdisent leur capture et leur commercialisation. Ces principales normes sont le arrêté 28-11 de 1974, et la loi 99 de 1993. En Colombie, le trafic d'animaux sauvages avec le commerce illégal pour l'exportation atteint des niveaux records dus au potentiel biogénétique de sa diversité et au manque de mesures pour préserver les espèces. En résumé, il n'y a pas assez de contrôle et l'effort de police reçoit un cahier de charge où la défense des animaux est loin d'être la priorité. Le ministère de l'Environnement est complètement dépassé dans sa mission du fait du manque d'effectifs et les organismes de gestion sont généralement très lents face au trafic et à la rapidité du commerce illégal. En Colombie, la loi 99 de 1993 a créé un réseau de structures avec en tête le ministère de l'Environnement, mais en fait, ils n'arrivent pas à gérer les territoires et c'est un boulot énorme vu à la biodiversité géante qu'on a en Colombie. Malgré on a une trentaine de parcs naturels, on a 54 sont protégés, mais c'est comme, je sais pas moi, tout le sud et tout l'est de la France, il y a 2-3 personnes pour gérer ça. C'est impossible. L'Amazonie, c'est la région amazonienne, la vallée d'Orinoquie, c'est presque toute la France. Vous voyez? Par ailleurs, les incohérences du système légal provoquent parfois des situations complètement absurdes. Par exemple, un paysan qui n'a pas d'aide de l'État, qui est au chômage, là-bas les assassins n'existent pas, hein, et qui chasse des iguanes ou des babillas, babillas c'est pas un caïman, c'est pas un crocodile, c'est une espèce complètement différente, pour nourrir sa famille, pour aller en prison. Pour aller un peu, je dis bien peu, à la prison, alors qu'un milliardaire qui possède un élevage industriel, qui a pour but d'exporter par milliers ses animaux pour la viande et pour les exotiques, ne viole pas la loi. Je vous explique. Et la loi dit que les personnes qui ont des élevages industriels d'animaux exotiques, sauvages, sont d'accord à la loi si 5% de ces espèces qui sont dans les élevages industriels sont données à l'autorité de l'environnement. Mais 84% pour l'exporter, le vendre, le commercialiser, élever la peau et tout. Donc, un paysan qui est affamé, qui n'a quoi nourrir une famille, s'il est pris avec une babilla ou une iguane, bah, il peut aller en prison. Je dis peu, parce que juridiquement, on est dans un état de nécessité qui, à mon sens, dans les droits pénals est un des points les plus importants philosophiquement parlant du droit pénal, c'est l'état de nécessité. Il me semble qu'on peut défendre certaines causes animales subversives avec ce principe-là, mais il faut un avocat qui connaît à fond le principe du droit pénal. Donc, qu'est-ce que c'est l'état de nécessité? C'est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autres ressources que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale. Ça, c'est un truc à garder comme une idée de défense à outrance. Donc, je vais vous montrer. Je fais une liste très courte, parce qu'on ne va pas compter les 600 espèces en voie de disparition colombienne. Non, c'est pas. Et après, j'y vais sans. Là, Santa Pugian. J'ai écrit les noms, je connais les noms que je connais, et les noms que vous les connaissez. Un tatou géant. Ça, c'est un tapirus. Il arrive à avoir une taille énorme, c'est impressionnant. Les colibris, ici, ça n'existe pas, mais en Colombie, il y a des centaines et des centaines des variétés de colibris. Les dauphins roses, c'est un dauphin de rivière qui se trouve souvent à l'Amazonie. Et il y a un bec très particulier. Le lamantin. C'est rigolo parce que les codes génétiques de cet animal, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, c'est un des plus rapprochés à l'homme. Et quand la femelle est enceinte, elle fait 9 mois. 9 mois, pareil. Et il y a une façon de réagir avec son petit qui est formidable. Et bien sûr, c'est un mammifère, donc. Et la lettre.
Dans les verres ou dans les rivières?
Les manatis, le lamantin, il existe dans les rivières et dans la mer. Donc il y a deux variétés différentes. Celui-là, c'est des rivières. C'est un animal complètement pacifique. Il a évolué pendant des années sans prédateur naturel, bien sûr, sauf l'homme. Et en fait, il n'y a pas de défense. C'est un animal magnifique, d'une tendresse absolue. Là, c'est l'ours d'anteojos, c'est l'ours à lunettes. C'est une variété unique au monde qui se trouve uniquement en Colombie. Quand on est près de lui, on dirait qu'il nous regarde avec ses. C'est pitage. Ça, c'est un paresseux. Un paresseux que, normalement, il est. Vous le prenez pour l'étranger qui arrive. Les étrangers arrivent en Colombie, là, c'est un pays exotique, et vous êtes photographié à côté d'un paresseur. Je vous raconte comment le paresseur est pris. Le paresseur a trois doigts, mais avec une force impressionnante. Il s'accroche aux arbres, et il n'y a pas de façon de le lever. Il s'endorme, mais il est accroché. On dirait qu'il y a des pinces de sécurité. Et pour le faire descendre, ils font des coups de bâton. C'est comme ça qu'il tombe, sinon il ne descend pas. Ça s'appelle un chien de Sande. C'est un animal qui n'est pas trop connu, malheureusement. Chien. Alors là, on arrive au top. Ça, c'est les cocoyes de Colombie. Et c'est un truc comme ça. Tout petit. C'est l'animal le plus vénéneux au monde. Et on a retrouvé une centaine d'espèces différentes. Et malheureusement, les scientifiques commencent à expérimenter avec eux pour voir qu'est-ce qui peut sortir de sa peau. Et c'est relativement récent. C'est minuscule, petit renard comme ça. Ça s'appelle Titi. En français, c'est pinché brun argenté. Dans les îles qui étaient chez moi à côté, quand j'étais gamin, je voyais des centaines. Mais non, on ne voit plus. C'est un singe. C'est un singe, oui. C'est un singe qui est souvent vendu en Europe, aux États-Unis, comme des animaux de compagnie. Donc il était exploité, mis dans les valises clandestinement pour aller dans les pays riches. Et ça, il est en train de disparaître, quoi. Les jaguars, c'est typique de l'Amérique du Sud. Pas la voiture, bien sûr. Ça, c'est la marimonda. En français, c'est la telle. Les condors des Andes, c'est l'animal ensemble, le symbole, le symbole de la Colombie. Il est même dans les drapeaux et tout. Ça, c'est la babilla.
Un truc en bleu là avec un truc sur la tête. Ça, c'est bon, on va
disparaître. Vous voyez que c'est pas tout à fait un caïman et c'est pas non plus un crocodile. Dans le film qu'on va voir, dans le reportage qu'on va voir l'après-midi, on va voir un élevage industriel, on va les voir vraiment dans sa manière. Et les derniers, pour ça, ce sont en résumé, hein, c'est l'Icotea. Cet animal-là, et je ne vous dis pas comment il est mangé. C'est un plat typique de Colombie. Même si en voie de disparition, il est mis au Lowillant, dans les autres. Et c'est dommage parce que les gens continuent à la manger malgré qu'on les dit. Voilà, c'est une habitude. Et des fois, on fait des contrôles, on enlève les cicotéas et les policiers qui prennent les cicotéas aux paysans vont le prendre pour eux pour les manger. Vous voyez, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est un résumé. Hein, on va pas raconter les 600 espèces. On passe donc à la faune domestique. Jusqu'en années 70, en Colombie, il n'y avait jamais eu de véritables normes en faveur des animaux. Faune domestique compris. La première loi réelle en ce sens fut la loi 5 de 1975 et son arrêté, pardon, loi 5 de 1972. Et son arrêté réglementaire 497 de 1993. Il s'agissait de un endroit, c'est une loi qui a été créée pour que toutes les mairies, toutes les communes créent de dépôts pour recevoir des animaux qui ont été maltraités ou qui sont de la faune sauvage qui a été pris par la police. C'est-à-dire des endroits particuliers.
Soigner plutôt que parquer.
Pour parquer, soigner, éventuellement libérer. Un refuge. Ensuite, fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'animal du 23 septembre de 1977, qui était signé à Londres et qui était repris ultérieurement à Paris le 15 octobre de 1918. Donc, dès 1984, plusieurs SPA colombiennes se sont attaquées à la tâche de créer une loi pour pénaliser les maltraitances aux animaux et structurer un système complet de droits de l'animal. À la suite d'un long et dur lobbying auprès des députés et des sénateurs, et malgré 5 ans
d'échecs réguliers, une loi a été votée sous le nom de Statut national de protection animale. Cette loi 84 de 1989, quoique imparfaite, constitue la colonne vertébrale du protectionnisme animalier colombien et un outil important de combat vis-à-vis de l'immense problématique. C'est-à-dire que jusqu'en 1989, il n'y avait pas une façon de défendre les animaux. Les animaux, juridiquement, jusqu'à cette étape-là, étaient considérés des choses, et s'il y avait quelqu'un qui faisait maltraitance à cet animal-là, on ne pouvait pas les poursuivre en justice. Donc, cette loi, c'est une réussite du mouvement animaliste, même si il est imparfait, il a des erreurs, même si on peut les critiquer, ça a permis de créer certaines choses et de là a développé toute une série de lois arrêtées que les associations ont poussées. C'est-à-dire, ce n'est pas les élus, ce n'est pas les députés, ce n'est pas les sénateurs qui ont dit on va réfléchir aux animaux. Pas du tout, c'est certaines personnes, certaines associations qui on est ensemble, on discutait un projet de loi, et après on l'a mené. Et c'est là où Sophie dit hier, c'est une réussite. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, on est bien. Non, mais c'est un pas. C'est un pas. Donc cette loi, grosso modo, dit que les animaux bénéficient d'une protection spéciale contre la souffrance et la douleur, papa. C'est déjà bien. Ce n'est pas réel, mais c'est déjà bien en principe. Uniformité du mot animal, c'est-à-dire, si on fait une maltraitance ou un acte de barbarie face à l'animal, ça n'a pas d'importance si c'est sauvage ou c'est domestique. Donc là, c'est une réussite. Parce que je vous dis qu'à niveau de. En France, c'est un peu différent. Parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de loi d'animal. Il y a la loi rurale, du code rural qui le gère un petit peu, mais il n'y a pas de loi spécifique pour les animaux en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses. Il y a la punition des crimes. Il y a une obligation de l'État de mettre en place dans l'éducation nationale des programmes pour parler des animaux. Pour parler des droits des animaux. Comme ils ne font pas, bah c'est les associations qui les disent et on le fait. On va aux écoles, les avocats qui s'intéressent à la cause animale, les associations, les personnes tout seules qui s'intéressent à la cause, et ils peuvent aller faire des conférences dans les écoles. Ça n'existait pas avant. Vous voyez, il y a des choses intéressantes. Une chose très importante, cette loi, que moi je la défends parce que même s'il n'est pas parfait, ça permet d'avoir une base. On peut discuter pour le futur, mais il y a une base juridique. Impose des devoirs aux propriétaires. Et jusqu'à 1989, il n'avait pas de devoirs. C'est-à-dire, j'ai un chien, c'est atypique, je peux le frapper, je peux ne l'ai pas donné à manger. J'ai pas un devoir particulier, parce que comme le statut juridique était que c'est un bien, et c'est un bien qui appartenait au propriétaire, les associations ne pouvaient pas demander à ces personnes-là, parce que les crimes ou les délits contre un bien meuble de quelqu'un, c'est la personne qui est le propriétaire qui doit le posséder, donc on pouvait pas la personne ne pouvait pas se dénoncer lui-même. Maintenant, grâce à cette loi, on peut dénoncer une personne qui fait maltraitance à n'importe quel animal. Vous voyez la différence? Il y a aussi la régulation des abattoirs. Bon, c'est pas condamné, on n'est pas là, mais il faut un étourdissement préalable. Il faut des mesures d'hygiène dans l'abattoir, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bon, je n'allais pas dire que la loi est parfaite. La loi dans le, permet, il l'autorise explicitement, las corridas, el recoleo, le combat de coq, la corraleja, et l'expérimentation animale. Sauf que, c'est la même chose positive, à partir de cette année-là, c'était interdit de faire l'expérimentation animale sans la création d'un comité d'éthique. Avant, tout le monde pouvait faire, et il y avait une chose terrible, c'est que dans les écoles, dans l'éducation nationale, avant de rentrer au lycée, on devait amener un crapaud, un lapin, l'ouvrir, vivant bien sûr, sans aucun produit, pour l'ouvrir et pour le montrer, là c'est son corps, ça c'est l'intestin, ça c'est l'estomac, et là, cette loi a interdit de faire ça afin d'éduquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire pour montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il est autorisé, surtout dans les facs, à titre de... avec un comité d'éthique, mais bon, c'est quand même un progrès. C'est pas top, bien sûr, je voulais accord, c'est un progrès. Donc, pour résumer la partie des animaux, moi, je vous parle en tant qu'avocat de deux façons de parler des animaux, mais pour moi, ce sont des animaux. Ça, c'est un débat parce que c'est pas clair dans la, c'est pas clair dans l'esprit scientifique et c'est pas clair non plus dans la loi. Donc, alors, selon l'article numéro 1, il dit l'expression animale utilisée de façon générale dans cette loi comprend les sauvages, les domestiques, sans rendre compte du milieu environnemental de lui il provient. Ça, c'est très flou. Parce qu'il y a certains qui vont dire, bon, mais... que les poissons sont des êtres sensibles, il y a certains qui vont s'arrêter jusqu'aux mammifères, d'autres aux vertébrés, d'autres, la discussion qu'on disait hier, est-ce que les insectes qui sont une sensibilité ou pas, est-ce que les abeilles par exemple, l'abeille c'est un cas très polémique dans les milieux animalistes, est-ce qu'on prend le miel des abeilles, qu'on fait l'exploitation des... Est-ce que cet animal-là a une sensibilité ou pas? Est-ce que les moustiques ont une sensibilité? Est-ce que les huîtres ont une sensibilité? C'est-à-dire que même les scientifiques n'ont pas créé une ligne. Donc comme les scientifiques n'ont pas un point précis, les éponges de mer par exemple, c'est un cas aussi discutable. Donc, comme les scientifiques ne l'ont pas fait, la loi non plus. Donc, en fait, il les laisse un peu ouvert. Mais, par exemple, donne-moi un exemple d'un animal. Ben, je dirais non, ça ne fait pas partie de... Franchement, non. Pour la conception, hein. Moi, après, j'ai ma vision personnelle. Mais la conception générale là-bas, c'est pas à prendre en compte. Il y a par exemple un des plus grands scientifiques colombiens, c'est Patarroyo. Patarroyo qui a, il a fait une réussite médicale, hein, je pense. Il a créé un vaccin contre la maladie. Et c'est une des maladies la plus répandue aux pays pauvres au monde. Un scientifique très connoté. Et bon, les mecs, il y a... Tu sais ce qu'il fait là, il inocule le virus à des anges en l'Amazonie. Il y a des centaines de cages, il pique des anges, il les met la maladie, et après il commence à donner des chocs pour voir qu'est-ce que ça marche et ça ne marche pas. Ça, c'est autorisé, par exemple. Ce sont des anges. Donc, tu vois, c'est autorisé, mais voilà, on a déjà compris comment ça marche la malaria, quoi. La malaria. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire par rapport aux droits des animaux, de façon générale, et surtout de façon juridique. Alors j'attaque la dernière partie, celui qui m'a fait le plus de peine. Et c'est la cynité. C'est la cynité, donc de laquelle je suis un peu spécialiste.
La quoi? La
cynité.
Ah, c'est ça.
Ouais. Assignité. Donc voilà, ça c'est le. Je pense que c'est pour cela que Julien m'a proposé. C'est pour ce sujet-là. Lequel, je ne sais pas combien de larmes et de souffrances j'ai vécu.
Pour introduire cette partie-là, en fait, l'année dernière, Nicolas m'a appelé pendant les estivales en Normandie, mais complètement par hasard. Je m'appelais pendant que j'étais à une conférence, je suis sorti, j'ai répondu, c'est Nicolas qui m'appelle. Et j'ai réalisé que ça m'allait bien sûr que Nicolas aurait pu être un intervenant. Donc, je l'ai rencontré quand je travaillais à l'Alliance française à Cartagena en Colombie. Et il était responsable du ciné-club. Donc, du coup, il était venu dans mon bureau pour me proposer un projet autour des âmes. Donc il a tout un reportage photographique et il m'a sollicité en tant qu'artiste peintre pour faire une exposition collective. Donc il y avait beaucoup d'artistes qui ont fait des créations à partir de son travail, de son enquête. Et voilà, ça m'a semblé très pertinent d'avoir invité aujourd'hui pour ce côté, cette dimension internationale aussi des festivals.
Donc voilà, là je vais vous montrer des photos qui ne sont pas tout à fait agréables, donc je vous dis ça où. Et de toute façon, je fais une plaquette parce que je vais avoir 20 ans avec ça, je commence à perdre l'espoir, mais tous les ans je me dis bon, cette année c'est bon, donc de temps en temps je laisse des plaquettes. J'ai rencontré des producteurs de cinéma plusieurs fois qui ont rigolé comme des malades. Après que je continue à parler, ils se sont rendus compte qu'ils ne rigolaient pas. Donc, cet essai, un peu par respect, j'imagine, ou par pitié. Mais à chaque fois, c'est un projet difficile à proposer parce qu'il n'aura pas de public, c'est ce que je dis. Hein. Des producteurs. Je me suis attaqué aussi aux associations de défense des animaux.
Des producteurs de cinéma en France ou en plus?
Pardon?
Tu as rencontré des producteurs de cinéma en France?
J'ai rencontré des producteurs en plusieurs pays. Et toujours, la dernière fois, j'étais en train de présenter mon film Les Compagnons de Loyal qu'on va regarder cet après-midi. J'ai rencontré un maître de National Geographic, un producteur très connu, là, et on parlait de ça, je disais, mais ça va pas, ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Et j'ai proposé à des bourses de cinéma en Colombie, aux États-Unis, en Europe, en France, à la région, CNC, Centre National de Cinématographie. Et j'ai proposé à l'association la plus grande au monde de, qui protège les sangs, qui c'est le Duncan Sanctuary, en Angleterre. J'ai une lettre très belle qui dit magnifique ton projet, mais je ne vais pas vous. Donc, je ne vais pas vous parler du projet complètement parce que je pourrais être jusqu'à demain. Donc, en fait, je vais parler seulement d'un point. Je vais montrer certaines photos parce que moi, ce que je veux, c'est utiliser l'âme comme un outil. C'est-à-dire que l'être humain a réussi dans sa complexité de faire tout et son contraire. Et là, il me semble qu'il est top. Qu'il est top pour ça, parce que sa symbologie est, montre à quel point l'être humain arrive à des bouts extrêmes complètement différents. C'est-à-dire que l'âne, à un certain moment dans l'histoire, était le symbole de la bêtise, de l'ignorance, de ce qu'il ne faut pas faire, de la lenteur, et de l'autre côté, des fois, c'est le symbole de l'intelligence, de la sagesse, de la humilité, de la patience, de la douceur. Donc, des fois, c'est aussi le symbole démoniaque. L'âne a été le symbole des enfers en Inde et en Égypte, par exemple. Mais s'il y a la bienfaisance, il y a la bonté, les grands leaders spirituels et religieux, Jésus, Mahomet, avec des âmes ou ont un parcours avec les âmes. Moïse, par exemple, il avait, il y a la Bible, on ne se rencontre pas tout. Mais bon. Donc, si lutter pour les animaux en Colombie semble ne pas avoir de sens, intercéder en faveur des ânes, en particulier, constitue un acte purement surréaliste. Dans la ville de Cartagène des Andes, chez moi, les ânes sont utilisés par des gens délinquants comme objet d'exercice afin de s'entraîner à manier les couteaux. Ils sont également maltraités, violés, brûlés et assassinés. Donc, s'il y a quelqu'un qui est un peu sensible, je vous conseille fortement de sortir. Deux minutes. Presque la totalité des images qu'on va voir, ça fait partie de mon projet de film, donc dans lequel je...
Donc tu en es l'auteur.
Je suis l'auteur sauf une, il me semble. Il y a un qui ne m'appartient pas, mais qui me l'ont donné pour le projet. Ça, me l'ont autorisé à le prendre dans mon projet. Donc, ce sont des images assez fortes, de maltraitance, de délits qui sont faits vis-à-vis des ânes. Voilà, donc ça fait partie d'un projet. Il y a un site internet où il y a quelques années j'ai cru que peut-être ça allait attirer des gens et peut-être récolter de l'argent et tout ça. Ça n'a pas marché non plus. Bon, mais le site internet est toujours là. Et donc voilà, si vous voulez voir plus, savoir plus, il y a internet. Et à la fin, je vous donnerai une plaquette, ceux qui veulent, pour les faire circuler et compagnie. Donc voilà, on y va. Il ne voulait pas, je ne sais pas à quel point ce sujet, il me touche tellement que j'ai du mal à avoir du recul. Donc, en fait, tu peux te faire tuer, quoi. C'est-à-dire que une fois, on est allé voir un homme qui était poignardé pour le soigner. Et il y a des gens qui voulaient nous faire mal, quoi. Donc, au bout du moment, on n'arrive pas à gérer, soigner ou aider tout ce qu'on veut, parce qu'on prend un risque nous-mêmes. Et voilà, par exemple, je me souviens, on a pris un âne qui était malade, qui était blessé, et les gens dans la rue disaient: quoi, tu t'en vas faire enculer pour l'âne, là? C'est-à-dire qu'il a une violence terrible, que des fois on n'arrivait pas à rentrer dans des quartiers où on ne savait pas si on pouvait sortir, vous voyez. Et voilà, c'est... Donc là, il m'a commencé à engoler, donc j'ai pris la photo et je lui dis carrément, il est parti en courant. Je ne savais pas si le mec... Peut-être non, il voulait m'engoler, peut-être parce qu'il ne voulait pas apparaître dans la photo, mais en tout cas, c'est simplement pour montrer. Ça, c'est un truc qui fait 100 tonnes. Hein. Là, ça, c'est un des premiers cas où je regardais. Ça, c'est une coupure de machette, ici jusqu'ici, c'est presque un mètre. Et bon, dans cette photo-là, on ne le voit pas bien, il y a un autre qui est la chair est complètement ouverte. Et ça, je me demandais, mais comment il fait cette bête pour survivre? C'est-à-dire qu'on avait un quart de blessure, il avait un autre sur la tête, d'ici jusqu'à là. Et là, il était là, il mangeait. Si, mais c'est pas possible. Ça. Là, on ne voit pas bien, mais il a un grand truc là, il s'est frotté avec la terre, il est caché, mais il y a une boule terrible ici, de l'autre côté aussi. Là, c'est. Il faut comprendre quelque chose. Les grands quadrupèdes, chevaux, vaches, ânes et compagnie, le poids de ces organes sont tellement. C'est beaucoup, quoi. Que ces animaux-là, d'une façon générale, ne restent pas couchés longtemps. Je ne sais pas si vous voyez les vaches, ils se couchent, et après ils bougent, ils se retournent. Ils ne restent pas comme nous, aplatis. Et quand un âne en particulier, il reste couché, ce qui est très mal. Et beaucoup de vétérinaires disent qu'au bout d'un jour comme ça, il faut le sacrifier, parce qu'après il a des effets irréversibles dans ses organes, parce que c'est 100 à 150 kilos qui vont abattre les organes qui sont en bas. Vous voyez? Et ces bêtes-là étaient à 60 degrés sur la terre, par terre, pardon. Et il avait un ou deux jours couché dans la position, on l'a mis un peu de haut dessus pour le rafraîchir. On avait un petit peu de carotte, mais bon, on savait qu'il allait mourir. De toute façon, dans la plupart des cas, on a du mal avec ça, parce que il y a des vétérinaires qui disent il faut l'euthanasier. Il faut pas le laisser comme ça. Et j'avoue que j'avais du mal à prendre une position par rapport à ça, parce que une des filles vétérinaires qui est la personne la plus engagée de ma vie de la protection animale, il dit non, il ne faut pas l'euthanasier. Donc du coup j'étais confronté à un problème que beaucoup de sociétés protectrices des animaux et des personnes de la cause animale se posent, si à un moment donné il faut sacrifier des animaux ou pas. C'est-à-dire que des fois il y a tellement de cas qu'en fait on devient des euthanasiens systématiques. À chaque fois il y a un animal, tiens, on a fait la piqûre. Donc c'est vrai qu'après il y a un problème moral terrible. C'est-à-dire, on est venu pour sauver l'animal ou pas. Et là j'avoue que des fois j'ai partagé l'idée de l'euthanasie. Mais c'est un sujet sensible. Je comprends que c'est pas facile. Mais quand tu vois un animal qui ne peut pas rester dans la même position et qui passe trois jours dans le même endroit, on a du mal à faire. Alors là, c'est un autre sujet, c'est la zoophilie avec les ânes et les ânesses. Avec les ânes, c'est une pratique assez répandue. Et ça permet de, bien sûr, d'avoir une première expérience sexuelle, d'augmenter la taille du pénis, de se préparer pour le monde sexuel avec les femmes. Ça c'est pour les ânes, hein. Pour les ânes, pour les ânes, mâles, on fait une corde, on les attache aux testicules, on attache une corde avec un bâton, et en fait c'est comme l'accélérateur d'une voiture. Tu poses ton pied sur ton bâton, ça tire la corde, que ça tire les testicules, et l'âne ouvre son anus. Donc là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'anus, on ne s'inquiète pas, on arrive à se trouver une façon pour se démerder avec les mâles. Donc voilà. Et c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur ça. Et n'appartient pas exclusivement aux classes pauvres. Parce qu'on a souvent tendance à dire « Ah, ça c'est les personnes de bidonville, ça c'est les personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont aucune culture. » C'est pas vrai.
Il y a des blagues en Colombie, alors en blague sur les costellos, c'est la boulasse. Ça dit que le militaire et la chèvre, quand ils vont faire des blagues sur ça. C'est très connu dans la société colombienne, c'est un très connu.
Dans la Caraïbe.
Dans la
côte Caraïbe.
Oui, mais en Colombie, ils le savent, que la côte Caraïbe.
Ils s'accusent d'ailleurs d'avoir fait ça, tout dépend de n'importe quelle classe.
En fait, les gens le disent, mais en public, ils ne le disent pas. C'est-à-dire qu'ils le disent entre copains. Après, je ne sais pas. Parce que comme il n'y a pas de recherche sur ça, ça fait 20 ans que je suis dedans, et il n'y a pas d'études. Donc du coup, moi, ce que je sais, c'est parce que je l'ai vécu. Après, je ne sais pas si la mixité en Colombie, ça existe, mais il y a des écoles de filles, il y a des écoles de garçons aussi. Et moi, j'étais dans une école de garçons. Après, je ne sais pas à quel point c'est vrai tout ce qu'on raconte. Parce que là, quand on a 13-14 ans, c'est les réveils sexuels, tout le monde raconte des choses. Ouais, il était avec une fille hier, c'était super. Donc, du coup, il y a des gens qui disent je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, quand on a cet âge-là, on pense qu'à ça, avoir les filles, avoir un rapport sexuel. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Ils disent, oh, il était avec une fille, yeah, c'est super. Oui, effectivement, ils étaient avec une fille. Mais ils n'ont rien fait. Mais bon, il est dit, ah, il était avec une fille, c'était super, tu vois, j'ai fait ça, ça, ça. Et papa. Et au fur et à mesure, on comprend que ce n'était pas vrai. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'étais avec une année, j'étais. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça existe.
La prise
commence de loin. Parce que je ne savais pas si, en étant près du mec, j'allais le pousser. C'est-à-dire, je ne savais pas s'il allait me retenir. Tu vois, si je suis face à lui, attends, prends ta main et fais quelque chose, quoi. Il y a d'autres moyens, quoi. Alors ça, c'est intéressant, c'est que c'est pas puni par la loi. C'est pas puni, donc c'est légal. Donc il n'y a pas de violation à la loi. Et moi, je fais partie d'un projet de loi, je disais, ça il faut le punir. Parce que là, c'est les années, mais ça se compte pour les poulets, pour les cochons, pour le... Bon. Pas rentrer en détail. Hein. Là, j'aime bien cette photo. J'aime bien cette figure, bien sûr. Parce que vous voyez ça? Ce sont des larmes. Mais ce sont des larmes, des semaines de larmes. Ce n'est pas une larme que j'ai photographiée, ce sont des larmes, plusieurs, peut-être milliers. Et cette âne-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai photographiée, et c'est une pitié, à chaque fois qu'il sortait chez moi, je le voyais, il marchait presque plus, il peinait quoi. Il peinait.
C'est des larmes noires?
Non, c'est les taches qui restent. Il y a tellement de larmes qui sont coulées que c'est les larmes, c'est transparent. Bah là, je ne peux pas te dire. Mais il avait l'air de souffrir après.
Ça peut être un écoulement aussi, parce que c'est normal.
Oui, mais comme il avait du mal à marcher. Il était. Bon, rien, hein. Jamais. Ça commence de la plus petite âge, hein. Là encore, les animaux qui travaillent ici. Là, un des points plus durs en Colombie, on s'engole entre les associations, entre les personnes qui s'occupent des animaux, c'est ça, c'est les charrettes et tout ça. Et on a beaucoup du mal parce qu'on a réussi, et là je pense que c'est une victoire, on a réussi à plusieurs reprises à interdire les charrettes. Dans la voie publique. Mais à chaque fois, on a des comptes. C'est-à-dire que, par exemple, à Bogota, c'est la capitale, c'est 10 millions de personnes. Il y a 5 000 charrettes, au moins. Ils sont associés, ils ont un syndicat, c'est quelque chose de structuré. En fait, ils ont. il accuse la loi d'inconstitutionnelle parce que ça l'empêche de travailler. Vous voyez donc.
Est-ce que dans cette loi
oui.
Ah oui.
Mais ça ne s'applique pas.
Ah,
c'est-à-dire que. Ça devrait être le cas, mais dans la vérité, c'est pas le cas. Donc, effectivement, il y a un poids que ça s'est mis sur. Par exemple, il y a un projet, c'est pas deux roues, mais quatre. Parce que en prenant quatre roues, il tire le poids pendant qu'en ayant deux roues, il porte le poids. Donc là, c'est indifférent. Vous voyez, par exemple, il y a les charrettes touristiques. Après un moment, on arrête de se disputer, mais il y a les charrettes touristiques, il y a 8 personnes, 10 personnes, et c'est un cheval qui les tire, quoi. Vous avez quelques images un peu difficiles à avaler.
C'est un pont qui vous dit ça.
Hein?
C'est un pont.
C'est
un pont du monde qui dit ça.
En Colombie ou
Bogota.
Bogota, Bogota, c'est 2600 mètres d'altitude. Donc c'est un hauteur déjà. Et après, effectivement, il y a des quartiers qui sont en altitude.
Quartier aussi.
Mais là, cette photo-là, c'est pas Bogota, cette photo-là, je l'ai pris en Colombie, chez moi, en Cartagena d'Indias. Bah, ça dépend de la ville, en fait. Parce qu'on est dans les tropiques, on est censé être à haute température, à une grande humidité. Mais à Bogota, il fait 18, 17. Et même chez moi, il fait 35. La Colombie a des pics. Si vous voulez, je vous les montre. J'ai jamais, je ne savais pas parce que si vous voulez des photos, je vous montre les pics de Colombie après, si vous voulez. La Colombie a des pics à 6000 mètres. Le parc Tayrona, par exemple, c'est un des endroits les plus beaux au monde. On a la mer des Caraïbes ici. Et tout d'un coup, il y a, anthropologiquement parlant, il y a deux cultures amérindiennes très fortes. Et il y a 6000 mètres qui d'un coup sortent dans la. Sortent dans la c'est la mer ici, du coup il y a 6000 mètres. C'est la Sierra Nevada, c'est un truc. C'est une beauté extraordinaire.
Les caféiers, par exemple, les cultures de café, ou les ânes transportent le café, moi je l'ai vu dans le sud, c'est comme ça.
Ouais. Et ben, c'est la cordillère, c'est 2000 et quelques
mois. Ah ouais.
On se poussait là que dans les Tours de France, il y a toujours des Colombiens qui grimpent bien. Parce que quand il faut monter la ligne, c'est 5500 mètres. Donc l'Alpe de l'Ouest, c'est rien du tout. Hein. On monte la ligne, on y allait. Hein. Donc voilà, on peut fermer cette déjà longue discussion. Hein? Oui, oui. Bah, il me manque une page, si vous voulez. On finit la page. Et je vous montre je vous montre El Dorado. C'est vrai, El Dorado c'est en Colombie. Et pas comme on dit Disney en Pérou. Donc pour finir cette assimité, parce que je pense que c'est intéressant de regarder cet animal comme un symbole de la contradiction humaine dans les extrêmes les plus profonds. Alors que les écrivains racontent des merveilles sur les balades à dos d'âne, Robert-Louis Stevenson, Andy Martyr, pendant que des philosophes l'utilisent comme des vecteurs de réflexion, Nicolas Machiavel, Giordano Bruno, Victor Hugo, quand des poètes écrivent sous lui des vers magnifiques, Miguel de Cervantes Saavedra, Francis James, Juan Ramón Jiménez, là-bas, tout au contraire, l'âme vit un calvaire. En prenant sa défense par tous les moyens juridiques et médiatiques à disposition, j'ai pris le risque du ridicule et j'ai payé souvent avec douleur cet engagement. Avec le groupe de défense animale qui m'accompagne, nous sommes à l'origine de diverses plaintes pour des délits commis contre ces bêtes et avons déposé des actions d'inconstitutionnalité visant les règles qui violent les droits du bien-être des ânes. Nous avons aussi saisi des tribunaux contentieux administratifs, bien sûr, afin de que l'administration fasse ce que la loi l'impose. Mais comment l'homme peut-il faire autant de mal à un animal qui, pendant des siècles, a été son fidèle serviteur? Pendant des années, j'ai énormément pleuré aux côtés de ces ânes moribonds, et à chaque fois que je me suis promis de faire quelque chose, malheureusement, eux ils continuent avec la souffrance infinie. Arthur Schopenhauer avait bien raison quand il disait que l'homme a transformé la terre en un enfer pour animaux. Donc voilà, j'ai décidé depuis bientôt 2 décennies de m'attaquer à un projet presque impossible sous les âmes, afin de montrer la complexité de la nature humaine et de ses conduites anthropocentriques. L'ambiguïté de la représentation de l'animal ou le caractère repoussant de son destin montre à l'évidence un esprit contradictoire et une pensée toute relative au seul intérêt de l'homme. Il résulte de qui précède que l'âne est ce que l'homme a projeté sur lui et que l'âne est ce que l'homme a voulu faire de lui. Considérons par exemple le cas des oreilles, oreilles d'âne. Cette caractéristique péjorative s'impose en Occident depuis le 19e siècle, alors que grandes personnalités l'avaient auparavant utilisé pour renforcer leurs propos, Cicéron, Esope. Elle est ensuite assumée ou renforcée par les caricatures satiriques des journaux et par des imprimeurs tels Louis Hachette, qui contribua à stigmatiser les oreilles d'âne dans ses livres de correction orthographique. Ignorance, bêtise et stupidité semblent être les indiscutibles attributs de l'animal. Cette image négative est ainsi réaffirmée par les proverbes qui redisent sans cesse l'accent d'intelligence du quadrupède. Néanmoins, dans certaines cultures, l'equus asinus est considéré en vertu de certaines caractéristiques comme le symbole de la sagesse. je pense aux Hébreux, aux Juifs et surtout les Kabbalistes. Qui, pour les Kabbalistes, l'âme est le symbole absolu de la sagesse. Et que pour réussir à avoir une sagesse digne de ce nom, il faut être comme l'âne, humble, travailleur, constant, pour arriver à cette sagesse. Parce que le chemin de la connaissance est un chemin long, difficile, qu'il faut traverser, des épreuves, et il faut être têtu comme un âne qui cherche un but particulier pour arriver à cette sagesse. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Si vous voyez, par exemple, une des premières images qu'on a fait sur la croix et Jésus, c'était un Jésus avec tête d'âne. On remonte au 3e siècle, 4e siècle, on trouve des images d'un Jésus avec tête d'âne. Vous voyez, ses longues oreilles lui permettent d'entendre de très loin, et cette capacité lui est reconnue sur le plan physique et sur le plan spirituel, au propre comme figuré. Ainsi, les longues oreilles ou les oreilles multiples sont les attributs des divinités et des êtres supérieurs dans de nombreuses civilisations, en témoignant les statues de Bouddha, les dieux Lhasa en Afrique, les guérisseurs des empires Inca, Babylon, Déona, en Inde, les dieux védiques, Indra, a de longues oreilles d'âne, tandis que la prière traditionnelle dit que l'oreille est le siège du Brahma. L'oreille est ainsi la source des plus grands pouvoirs, puisqu'il permet de reconnaître la nature du monde invisible, alors que l'œil est destiné à la connaissance du visible.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méditation dans certaines voies spirituelles indiennes sur le son.
Au-delà des différences de considération pour cet animal, entre les cultures et à l'intérieur même de chaque culture, l'âne démontre enfin toute la relativité des représentations humaines. Voilà, c'est seulement un simple, cette symbologie. Et en Inde, on voit tout ce contraire, c'est-à-dire que Indra en Inde, il montait dans des ânes ailés. Et en même temps, pour voir la même contradiction dans les mêmes pays, dans les enfers, dans la mythologie védique, et l'enfer est couvert de peaux d'âne. En Égypte, par exemple, l'âne est le symbole de la mort, le symbole de Seth, le dieu de la mort. L'âne rouge est un symbole négatif. Donc voilà, c'est un animal qui a une symbologie très chargée et très complexe. Il y a plusieurs, mais c'est surtout dirigé vers des balades dans la préservation. Parce que les ânes, à partir des années 50, ont disparu en France. C'est-à-dire que l'âne était très maltraité en France. Ils ont été très maltraités. Et après, vu qu'il y avait beaucoup moins d'animaux, fait, l'animal est devenu la cynothérapie, par exemple. Montéo Dodin, des personnes qui travaillent avec l'handicapé. Donc en France, depuis quelques années, c'est une ambition de défense de l'âme, mais plutôt de, oh, d'un bon compagnon. Quoi. Oui, mais ça va. Mais là, il y a l'élevage, il y a aussi, ça s'explique par, dans la mythologie, c'est très compliqué parce que là, c'est chargé de symboles. Donc, en Grèce, par exemple, l'âne était le symbole de la fécondité. Priap était représenté souvent avec une tête d'âne. Vous voyez? Parce que le phallus, c'est le symbole, c'est le symbole phallique et c'était le symbole d'or, de la fécondité, de la révolution. Donc, depuis les années avant Jésus-Christ, on a une vision de que l'âne était un moyen fertile, de fertilité. Donc, ça reste dans l'inconscient collectif quand même. Ça, c'est la ubication géographique.
Est-ce que tu as
fait
des
Là, c'est la Colombie, l'éducation géographique, c'est le premier pays de l'Amérique du Sud, géographiquement parlant. Donc, vous voyez ça, c'est la ligne équatoriale. Donc, on est en plein carrière, quoi. Mais il y a des villes qui sont en altitude. Donc là, il y a des villes qui sont à 3000 mètres. Là, vous voyez, c'est pas.
Il faut
neiger
à Bogota.
Il faut neiger à Bogota, ouais. On est dans les tropiques, hein. Ça, bien sûr, c'est le café colombien le meilleur du monde. Il y a eu un
pan. On ne voit pas en Colombie, d'ailleurs.
On commence à voir plus. On commence à voir plus. Parce qu'en fait, les cafés colombiens, qui est très bon, en fait, les bons cafés, c'était souvent pour l'exportation. Donc les Colombiens ne goûtaient pas les bons cafés. On avait un café, mais.
Ils ont moins la culture du café noir, du café au lait, surtout.
Non, mais il y a des gens qui font son café et sa cigarette. Ça, c'est Bogota. C'est 10 millions de personnes.
Et
combien
de Colombiens ?
Écoutez, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je ne crois pas aux statistiques qu'ils nous donnent. Les chiffres officiels, c'est 45 millions de personnes. Mais il semblerait qu'il y a autour de 10% de la population qui a quitté le pays.
En 93,
on s'est fait
recenser
d'ailleurs. On était autour de 40 millions. On était autour de 40 millions, c'est sûr.
Ils empêchaient les gens de sortir. Le jour du recensement,
non. Ça c'est chez moi, c'est Cartagena d'India. Que bon, en dehors des âmes maltraitées, c'est une ville magnifique. Patrimoine historique de l'humanité. Il y a un centre historique architectural très. Et c'est la ville la plus visitée de Colombie. C'est là où tous les étrangers arrivent.
La lune de miel.
Voilà.
La Suède aussi, les stars, les politiciens peuvent venir assez souvent. Donc c'est une ville très sûre, hein, pour faire l'Espagne, parce que c'est une ville où il peut y avoir des Bush et des Bulls.
Bush, Bill Gates, et Clinton.
Et voilà, c'est une ville très. Voilà.
Et malheureusement,
À la américaine, il y a le quartier vraiment américain, Boca Grande, le quartier historique comme ça, charmant, puis t'as les pistons qui sont sur les
Mais c'est vrai que pour aller lune de miel, c'est super, c'est-à-dire qu'il y a un cadre magnifique de la plage, la mer, il y a des îles à côté qui sont magnifiques,
sur les Caraïbes.
Vous rentrez, j'ai parlé avec quelqu'un hier par rapport à la température de l'eau à Marseille, que c'était 25 degrés. Et pour moi, c'était froid, je voyais tout le monde content parce qu'il faisait 25 degrés. La température de l'eau à 7 heures du matin, c'est 33, 34. C'est super. Ça s'est réfléchi parce qu'on est à 37 quand même. Hein. On est à 37, toi à 4 degrés de moins. Non, parce que c'est chaud pour toi, parce que tu es français. Mais si tu viens de, je sais pas, de Normandie, tu prends là, hier c'était à 16 degrés, la mer, du côté de Mont-Saint-Michel. Dans le sud, 20, 21, 22.
Et c'est assez facile d'être végétarien. On va partager, il y avait plusieurs restaurants végétariens. Sur la grande place, il y avait les Krishna, qui avaient un restaurant. Dans l'Alliance française, il y a rien que le pâté de maison, il y avait deux restaurants végétariens, le traditionnel et la
sauce. Il n'existait plus. Hein.
Il n'existait plus.
Parce qu'on mange beaucoup de viande. C'est-à-dire qu'à la base.
Oui, il y a plein de jus de fruits et plein de légumes.
C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de légumes et des jus, des fruits, qu'on peut. Ça, c'est. Mais on n'est pas là. C'est-à-dire que là, je suis allé, là, il y a quelqu'un qui m'a proposé un. Il dit non, je ne veux pas manger la viande. Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire que c'est pas dans les morts, quoi. C'est-à-dire.
Je crois que c'est pas
pareil.
Oui,
c'est pareil.
Il y a
beaucoup de
bananes. Il y a beaucoup de bananes. Shakira, c'était. Shakira, c'est fille de Libanais. Là, c'est Medellin. Qui est réputé pour le cartel de la drogue.
Non, l'orchidée.
Alors, ça c'est quoi?
Tayrona.
Tayrona, en bas.
Le paradis.
Tayrona en bas, c'est. Mais je vous jure, c'est un des endroits les plus beaux au monde. C'est.
Il y a des requins?
Oui. Mais il y avait pas de chien. Non, il va manquer plein. Ça, on n'a pas vu. Ça, c'est le dorado. Guatavita.
Ah, Guatavita.
Ça, c'est un truc magnifique, en fait. Il y a les Amérindiens. Ça, c'est le lac de Guatavita. Ça, c'est autre. Et en fait, il y a. Chaque fois que quelqu'un mourait, il était mis à l'eau avec ses colliers d'or et tout ça. Donc, pendant des siècles. Donc, les Espagnols, quand ils ont entendu cette histoire-là, il y a un lac, il y a plein d'or en bas. Mais c'était pas faux. Hein. Après, ça, on ne sait pas s'ils ont réussi à rentrer et tout vivre parce qu'il y a eu des explorations et ils avaient un problème. C'est pas sûr pour rentrer. Donc, on n'a pas exploré vraiment à fond. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont fait. Hein. Ils ont dit que. Il y a quelqu'un qui rentre, par exemple, dans la côte Caraïbe, les Amérindiens de la côte Caraïbe, les Caribes, quand ils mouraient, ils mettaient un arbre. Et sur l'arbre, ils mettaient des petites cloches en or. Et donc, ils savaient que sur l'arbre, il y avait un cadavre avec tous ces, ces trucs, non? Je n'écoute qu'ils voyaient des petites cloches dans les arbres, il y avait des centaines, ils sont tous vidés. Voilà.
Alors en fait, ils ont creusé une brèche pour essayer de vider le lac quand même. À côté de l'habitat.
C'est vrai?
Oui, il y a une brèche, parce qu'ils voulaient vider le lac pour réussir à accéder au cours. C'est un truc qui est comme ça.
Ah, ils ne savaient pas ça.
Il y a une grosse brèche qui a été faite. Moi, j'ai visité cet endroit-là, et l'histoire, c'est qu'ils ont. Ils ont fait des travaux incroyables pour essayer de vider ce lac.
C'est la fête de Mourou.
Ouais. Ah, ça va, t'es plein, c'est ta gang. On est ta gang par corps, imagine. Ta gang, c'est à côté de Santa Marta. Alors, ça c'est le parc de la Soufral, c'est un lac du Soufre. Et quand on vient en avion, par exemple, on est à altitude. Et tout d'un coup, on se trouve au niveau du sol, quoi. C'est-à-dire, parce qu'il y a des montagnes à 5000, 6000 mètres. C'est pour cela que la Colombie était riche, parce qu'on a une variété, on a des vallées, on a des déserts, on a l'endroit le plus au monde, du côté pacifique, on a l'Amazonie. C'est la quantité d'animaux qu'il y a,
Les
Indiens, on les a tués, hein. De façon systématique. Non, il y a 80, je rigole. Il y a 80 communautés amérindiennes. Mais là, ils ont récemment fait une marche parce qu'ils ont été tués. C'est-à-dire qu'il y a une guerre entre les paramilitaires, la guérilla, l'État. Ils sont au milieu de tout ça, mais ils n'ont rien à voir avec ça. Mais ils sont tués quand même. Ça, vous voyez, c'est des pics. Ça, c'est des pics à 6000 mètres. Les trois. On est à 6000 mètres. Vous voyez, on a pas de la vallée complète. Voilà. Bon, on l'a dit pour la route. C'est San Andrés. Ça, c'est une île qui se trouve près de Nicaragua, qui ne sait pas pourquoi nous appartient. Et en fait, il est magnifique. Et c'est rigolo parce que cette île-là, il est en forme d'hippocampus. C'est un hippocampus. si on le voit du satellite.
Comment ça s'appelle?
San Andrés. San Andrés et Providencia. Providencia, c'est la paix. C'est un paradis
commercial, non? Ah.
Bon, voilà. S'il y a des questions...